financier, le travail, l'incertitude. D'accord? Alors, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ont peut-être été touchés parmi nous, déjà en commençant par la famille. Seigneur, au niveau du travail, et il y a des problèmes financiers, peut-être aussi, même si voilà, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour aider, etc. Mais quelquefois, il y a des cas individuels et nous te prions, je te prie, Père, au nom de Jésus, ensemble maintenant, d'agir puissamment. Maintenant, Seigneur, il y a déjà quelqu'un qui m'a parlé que, voilà, je serai licencié, puisque, ben voilà, c'est l'économie qui a été touchée. Alors, je te prie, Père, au nom de Jésus, que personne ne soit oublié par toi, surtout. Personne, Seigneur. Ceux qui ont des difficultés, ceux qui pensent que, ah ben voilà, pour moi, c'est fini, je vais perdre mon boulot, mon travail, comment je vais faire, etc. Ah ben, Seigneur, déjà, nous commençons par nos couples, si on est tout seul, ben déjà pour nous tout seuls, Seigneur, pour les couples, pour la famille et l'Église, parce que l'Église est aussi la famille, Seigneur, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Et nous te prions pour nos voisins, nos amis, la famille éloignée, etc. Seigneur, nous pensons à quelqu'un, puis cette personne a vraiment besoin d'une intervention surnaturelle dans ce domaine-là. Agis, Seigneur. Agis. Agis puissamment. Puissamment. Agis. Prions aussi pour la protection. Hein. Vous savez que nous vivons toujours avec les virus, hein, c'est ce qu'on dit, ce qu'on annonce dans le monde. Partout dans le monde, il y a des problèmes. Voilà, ça reprend la maladie dans certains pays. En France, je pense que ça va dans le bon sens. Hein. C'est ça. Hein. Et c'est malheureux pour chaque mort, mais bon, il y a beaucoup de morts. Mais on vit avec ce virus. Alors, nous avons besoin de la protection, parce que peu importe où on se déplace, voilà, moi je fais beaucoup d'attention, je ne me déplace pas beaucoup, mais quand même, on peut attraper le virus. Alors, Seigneur, je te réclame pour la protection, déjà pour ceux qui sont dans le travail, il y a quelques personnes qui travaillent parmi nous dans les hôpitaux, Seigneur, dans les cliniques, etc. Alors, tu les protèges, Seigneur. Ils sont premiers à affronter souvent ces combats. Et tu leur donnes la certitude, Seigneur, la paix, Seigneur, et surtout l'esprit de protection. Soit sur chacune des personnes qui sont dans ces lieux, Seigneur, fragiles, et aussi tous ceux qui sont peut-être dans des conditions un peu plus faciles, Seigneur, mais ils sortent vraiment dans des magasins pour faire les achats. Peu importe, Seigneur, peu importe où on peut attraper cette maladie. Mais nous refusons, Seigneur, cette maladie. Nous réclamons la protection sur chacun d'entre nous. Amen. Amen. On réclame la protection. Tu m'as protégé jusqu'à aujourd'hui. Ah ben, demain, après-demain, dans un mois, Seigneur, je reçois ta protection surnaturelle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous croyons? Nous croyons, Seigneur. Merci. Ensuite, Seigneur, nous prions pour l'Église aussi parce que je réfléchis beaucoup pendant ce temps-là et je vois que l'Église tourne en trois vitesses. Bon, vous essayez d'interpréter comme vous voulez. Moi, je vois en trois vitesses. Hein. Ceux qui sont là, peu importe dans la maison ou pas la maison, on est là. Vous savez que ce n'est pas la présence occulte qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve, mais quelque part, on a besoin de se nourrir, voilà, lire la parole de Dieu, etc. Et puis, il y a aussi d'autres personnes qui peuvent facilement faire mieux, et puis ceux qui décrochent complètement. Donc, il y a trois vitesses. Alors, Seigneur, je te prie, Père éternel, au nom de Jésus, voilà, pensez aux uns et aux autres, à vos amis, voilà. Seigneur, pour que personne ne soit oublié. Amen. Personne ne soit oublié sur les chemins. Nous voulons, amen, avancer avancer ensemble. Ensemble dans les combats. Amen. Alléluia. Jésus est notre roi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Voilà. On va prier encore à la fin pour continuer. J'étais vraiment touché par cette parole depuis dimanche dernier, mais aussi Alice. On va prier pour que le Seigneur ait ta main pour qu'il se produise des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Amen. Alors, il n'y a pas longtemps, je pense que c'est Nathalie avec les enfants, elle nous a parlé de Naaman. Ça vous dit quelque chose, Naaman, il a la jeune fille. Voilà, et puis chaque histoire biblique, ça nous interpelle. Et je me suis dit, je vais revenir encore sur cette histoire pour quelque part retirer un enseignement, un encouragement. Voilà. Et puis on va lire ensemble, j'ai intitulé mon intervention ce matin, la puissance de témoignage. La puissance de témoignage, la puissance de mon témoignage, de notre témoignage. Et Pascaline, est-ce que tu peux nous aider? Tu prendras le micro parce qu'il y a quand même pas mal de versets. Donc on va lire le deuxième livre de Rois, d'accord? Chapitre 5, les premiers 5 versets pour commencer et puis après encore quelques versets. Mais je vous encourage toujours, quand vous allez retourner à la maison, chez vous, si vous avez le temps tout de suite, sinon encore après, peut-être le soir, lisez le chapitre 5. Voilà, parce que moi je vais juste prendre l'essentiel pour appuyer ma pensée, mais c'est vraiment un chapitre remarquable. Tout est remarquable, tout est puissant dans la parole de Dieu. Mais vous allez mieux comprendre mon partage de ce matin. Voilà. Pascaline, nous lisons avec elle. Alors, je me cache. D'accord, donc 5 versets, et puis ensuite on va prendre Pascaline le 9, verset 9, jusqu'à 14 inclus, voilà.
Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur ? Il tourna le dos et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler, ils dirent : Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur.
Voilà, donc on a pris juste quelques versets comme ça, quelques séquences de cette belle histoire. Il est question ici de Naaman, c'est bon? Vous avez compris, Naaman c'était un chef d'armée syrienne, d'accord? Donc, imaginez-vous actualiser un peu cette histoire aujourd'hui. chef de l'armée en France. Voilà, c'est quelqu'un qui est important, c'est quelqu'un qui est directement sous les ordres du président. Là, il était sous les ordres du roi syrien. Mais il était comment? Il était malade, il n'était pas bien. Il avait la lèpre et c'était une maladie vraiment humiliante, vraiment. Et les gens, ils étaient souvent à part quand ils avaient cette maladie, etc. Et puis là, c'est un grand chef, une personnalité, d'accord? Il avait cette maladie. Et ensuite, on parle dans cette belle histoire d'une jeune fille, d'une jeune fille. Et j'aimerais attirer votre attention surtout sur l'histoire, sur l'attitude de cette jeune fille. Alors, dans nos prédications, souvent, on prêche de Naaman, voilà, un homme comme ça, il était guéri. Ensuite, on parle aussi, voilà, c'est Élisée, etc., les prophètes. Et la jeune fille, on passe souvent comme ça, oui, jeune fille. Et pourtant, vous voyez combien cette jeune fille, elle a joué un rôle important pour la guérison de cet homme, cet homme-là, qui était donc le chef de l'armée. Voilà, Syrienne, merci. Donc, cette jeune fille, elle était quoi? Elle était israélienne, hein? Voilà, l'Israël, ça vous dit quelque chose? À l'époque, l'Israël, un peuple de Dieu choisi, par qui? Par Dieu. Donc, c'était vraiment un peuple de Dieu. Et puis souvent, attaqué, etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Que Dieu était vraiment parmi les... Même si les rois se sont éloignés de Dieu, même si souvent on s'est éloigné de la volonté de Dieu, mais ça restait toujours un peuple de Dieu, un peuple choisi, d'accord? Et parmi ce peuple israélien, il y avait, donc on parle ici d'un prophète, un homme de Dieu, qui s'appelait Élisée, et il était chauve comme moi. Et donc, cet homme avait une relation avec Dieu. Et Dieu a donné ce prophète à Israël pour pouvoir parler par les billets de cet homme, parler au peuple, parler, exhorter, annoncer les oracles de Dieu, etc. Et voici cette jeune fille, hein, cette jeune fille. Si on parle de jeune fille, elle était vraiment jeune fille, peut-être une adolescente. Voilà, cette jeune fille, elle joue un rôle important dans cette belle histoire. Elle était captivée donc par les Syriens. Elle était en captivité, comme une esclave, éloignée de son peuple, éloignée de ses amis, de ses parents, etc., toute seule. Et elle servait, vous avez entendu, elle était au service de qui? De la femme de cet homme qui était vraiment malade. Bienvenue, Philippe. Oh, maintenant, je te reconnais mieux. Et voilà, cette jeune fille croyait en Dieu, hein. Croyait à la puissance de Dieu. Cette jeune fille croyait que Dieu pouvait faire les miracles par les billets de ce prophète. Donc il y avait toute une culture dans la vie de cette jeune fille. Et puis voilà, vous avez compris, cette jeune fille, elle voyait le mari de sa maîtresse, sa patronne, si vous voulez bien, dans la situation difficile, malade, etc. Et elle a dit, ah, ben moi, j'ai la foi en Dieu. Et tous les peuples autour, ben, ils ne croyaient pas en Dieu. Ils avaient d'autres dieux, d'accord? Et cette jeune fille, voilà, elle était isolée, toute seule, etc. Mais elle avait une relation avec Dieu. Et voilà, elle témoigne. Et son témoignage était tellement simple, mais en même temps puissant, percutant. Si mon Seigneur pouvait aller voir le prophète, et le prophète bah, peut les guérir. C'est ça, c'était sa préoccupation, voir un homme comme ça, malade. Mais attention, elle était convaincue. Elle ne balançait pas ces choses-là comme ça, juste à titre intellectuel. Mais elle était convaincue que si cet homme se déplace pour rencontrer l'homme de Dieu, Élisée, ben il sera guéri. Amen. Quel témoignage de cette jeune fille, la puissance de son témoignage, elle bouge, elle déplace cet homme qui était un grand homme dans ce monde. On est bien d'accord, hein? Et puis voilà, donc, Naaman prend les chevaux, le char, et voilà, on y va. On y va donc en Israël. En Israël. Et bon, vous pouvez lire entre deux, il y avait son roi, il a même lui a même donné la lettre au roi d'Israélien, etc. Et puis donc, je passe tous ces détails, c'est une belle, longue histoire. Naaman, il se présente devant la porte de qui? De l'homme de Dieu. Élisée. Un homme simple, mais rempli de Dieu. Amen. Une petite, simple maison. Un grand homme dans ce monde se présente devant sa porte. Et il s'est dit, ah! Oui, je suis malade, mais en même temps, je suis quand même, j'ai une personnalité, je suis envoyé même par le roi. Le roi m'a demandé d'aller. Il se présente devant cette maison. Et puis Élisée, il est resté chez lui. Il ne se déplace même pas. Il envoie quelqu'un, un serviteur, pour lui dire, quoi? Va dans le Jourdain et trompe-toi, combien?
Sept fois.
Bon, maintenant, je ne veux pas vous prêcher pourquoi sept fois, pas six, pas huit. Bon, on peut développer tellement de doctrines autour de ça. Moi, je prends la parole telle qu'elle est, simple. Sept fois. Pourquoi? Dieu sait pourquoi, même si... Bon. Et puis cet homme, il s'est fâché, il était furieux. Que quoi? Alors lui, il s'est dit, je suis un grand homme célèbre, etc. Bah, certainement, le prophète Élisée, il prendra ça en compte, que je suis pas rigolo, je suis pas serviteur, je suis pas ceux qui soignent juste les chevaux, mais je suis quand même le chef de l'armée, et il va venir bien habillé, bien cravaté. Bon, il n'y avait pas de cravate à l'époque. Mais c'est juste, voilà, on actualise un peu l'histoire. Bien cravaté, à beau costard, non? Ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Il y a le protocole et tout ça, voilà. Il n'y a rien de tout ça. Élisée, il bouge même pas, il reste chez lui, il lui envoie un serviteur. Ah ben, c'est normal que cet homme-là, il était furieux, il a fait demi-tour et il dit, on a marre, je me suis déplacé. Et puis, je rentre chez moi. Mais attention, cette jeune fille, elle a quand même dit, s'il va chez Élisée, il sera guéri. Vous voyez, son témoignage était là, réel. Et puis, il y avait quand même quelqu'un qui avait quelque chose dans la tête, un serviteur parmi les, parmi les personnes qui accompagnaient donc Naaman, et il lui dit, écoute, s'il t'avait demandé quelque chose de compliqué, difficile, t'aurais fait pour ta guérison, non? Et là, c'est parce qu'il te demande quelque chose tout simple. Fais-le! Et puis, il avait raison, non? Il a compris qu'il y a quelque chose différemment qui se passe. Il y a tous ces protocoles, voilà. Les protocoles, chez Dieu, c'est qu'il n'y a pas de protocole, il fait les choses à sa façon, il nous bouleverse. Et cet homme, il était complètement déboussolé de cette situation. Et il a obéi, et il a juste allé dans l'eau, dans le Jourdain, c'est un fleuve simple. Quand on a été, nous sommes allés là-bas, puis j'ai mis mes pieds dans le Jourdain, puis j'ai dit, c'est pas bon, c'est... Je pensais que le Jourdain, c'était quelque chose... Voilà, j'avais cette impression. Hein. Bon, ça a changé. Elle était, je pense que le Jourdain était plus large avant que maintenant. Mais c'est dans des endroits, ben voilà, c'est même pas propre. C'est... Là où je visitais. Hein. Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de cette... ces exercices d'aller sept fois se tromper dans l'eau. Naaman est sorti. Quoi ? Guéri ! Oui, guéri ! Même si vous avez le masque. Dites ensemble avec moi que Naaman était guéri. Naaman était guéri ! Libéré ! La maladie a été complètement anéanti. Merci pour le mot puissant, Alice. Oh là là. Voilà la jeune fille. Que pensez-vous de cette jeune fille? Que pensez-vous de cette jeune fille? Alors moi, je me suis arrêté là. À la suite, quand ils ont fait ici un sketch et tout ça, je me suis dit, un jour, je vais revenir sur cette histoire-là, puis je vais parler sur l'attitude de cette jeune fille qui avait un témoignage tellement puissant, tellement puissant. Et je suis vraiment content. Alors, mes amis, quel enseignement pour nous? Alors, pour vous et moi, pour toi et moi, ben nous sommes quoi? Les enfants de Dieu. Fred nous a dit dimanche dernier. Ben finalement, je cite, ça fait déjà deux fois que je cite ton prénom. Mais tant pis pour toi, tu n'es pas fâché, non? Il nous a parlé de la paternité. Vous vous souvenez? Allô? Pour ceux qui étaient là? Et il nous a dit que finalement, voilà, nous les chrétiens, nous, tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes devenus les citoyens du royaume de Dieu. C'est fort, non? Ben, qu'est-ce que tu as fait pour avoir ce statut? Ben, moi, j'ai rien fait. C'est la grâce. Merci. Qu'est-ce qu'elle est puissante, ta femme, Pierre, aujourd'hui? Oh là là! Un petit cadeau, hein, t'as un petit bouquet. Hein, elle mérite un bouquet, hein, vraiment, Pierre. Je vais te demander la dimanche prochain si c'est fait. Bon, un bouquet, c'est juste symbolique, ça peut être autre chose. Hein. Nous sommes donc les enfants, je répète, les citoyens du royaume de Dieu. Tout ça, c'est par la grâce. Nous étions intelligents ou non, ouvriers ou cadres, riches ou pas riches, peu importe, la grâce de Dieu est venue sur nous. Et nous sommes graciés, libérés, toi et moi, vous et moi. Nous étions condamnés tous à quoi ? À l'éternité, mais sans Dieu. À l'éternité, à une vie qui va continuer, mais sans Dieu. Là où il y aura les tourments éternels. La grâce de Dieu s'est approchée vers nous. Nous l'avons acceptée. Nous avons bénéficié de cette grâce, de cette libération. Et aujourd'hui, ben, je ne sais pas vous, mais moi, je suis tellement heureux, je suis tellement content. Quand je m'assois le matin pour boire le café avec Christiane, quelquefois je lui demande, ça va, t'es enflammé, t'as la foi? Parce que cette joie, ça bouillonne en nous, non? Comment c'est vous, non? Jean-Noël, ça va, t'es pas assez... Aujourd'hui, c'est un peu... Bon, c'est le masque qui fait ça. Quel privilège! Quel privilège d'être enfant, une fille, un fils de Dieu, de se réclamer les enfants de Dieu. Donc, comme cette jeune fille qui était israélienne, elle avait un témoignage puissant, et puis Dieu était avec eux, ben Dieu est aussi avec nous, et nous sommes dans un monde qui va pas très bien. Moi, je suis pas critique, parce que je dis, il y a tellement de bonnes choses autour de nous, tout n'est pas mauvais, vous comprenez ce que je veux dire? Mais voilà, il y a tellement de choses dans ce monde qui nous tirent vers le bas. Mais nous avons un statut des enfants de Dieu. Et nous avons aussi, comme cette jeune fille, toi et moi, nous avons un témoignage puissant. Notre témoignage, c'est quoi? C'est dire aux autres, déjà se dire à nous-mêmes, à soi-même. Ben, tu vois, Jésus, on a prié pour quelques problèmes. J'ai un combat ici. J'ai au combat là, j'ai la santé qui ne va pas peut-être, il y a les enfants, quelque chose qui ne va pas, c'est peut-être mon mari, peut-être mon épouse. Ben déjà, nous pouvons nous tourner vers Jésus. Amen. Pour lui dire, Jésus, voilà, je compte sur toi et tu vas régler tout ça. Amen. Voilà. Et puis ensuite, nous avons aussi un message puissant pour dire à ceux qui vivent sans Dieu, comme ce Syrien ici, comme cet homme-là, qui était important dans ce monde, qui était célèbre peut-être, mais il n'y avait pas Dieu. Et lui-même, il a reconnu, il n'y a pas d'autre Dieu que celui en Israël, si vous lisez l'histoire. Il n'y a pas d'autre sauveur pour nous, pour l'humanité, que Jésus-Christ qui est mort sous la croix de Golgotha. Pour toi et moi, qui nous a graciés, il a payé le prix pour nous. Il nous a donné le pouvoir, je répète, de devenir les enfants de Dieu. Alors hier, je suis dans les jardins, et puis voilà, il y a le voisin qui me voit. Il était dans son jardin, et ils sont venus habiter il y a quelques jours dans cette maison. Ils viennent emménager et il m'a dit, ben, monsieur, bonjour, voilà, je suis votre voisin, votre nouveau voisin, et j'ai déjà parlé avec votre épouse, etc., très gentille. Et puis donc, il m'a dit, voilà, nous sommes venus ici, ben voilà, la retraite. Il a vendu de sa maison dans une ville. Il est venu habiter là, une belle petite maison pour un couple retraité, c'est formidable. Moi, je dis, vous avez réussi, quel bon, c'est le fruit de votre travail. Et donc, ah ben, et moi, je lui ai dit, ben, donc il s'est présenté, le prénom, etc. J'ai dit, mon épouse, c'est Christiane, il a déjà parlé avec. Et moi, c'est Antoine. Ben, nous sommes aussi retraités. Nous sommes aussi retraités. Mais je suis à la retraite. Mais comme j'étais toujours le pasteur donc, d'une église évangélique protestante, ben, je continue. Voilà, je suis bénévole. J'ai continué de travailler parce que j'ai un message encore. J'ai encore un message à communiquer, à partager avec d'autres. Voilà, j'ai la bonne nouvelle à annoncer, c'est parler de Jésus, parler de ce qu'il est, et c'est que c'est lui qui est notre sauveur. Je lui ai juste dit ça, et puis il m'a regardé comme ça. C'est rare, hein, là, tomber sur quelqu'un qui parle comme ça. Mais bon, il s'est présenté, je devais être transparent avec, non? Qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Voilà, c'est déjà pour moi, pour dire à quelqu'un je suis pasteur, c'est pas mon voix fort pour dire je suis pasteur. C'est les fruits qui doivent parler de nous. Mais là, dans des situations comme ça, je lui ai dit. Et il m'a dit, bah, il faut des gens comme vous. Parce que dans la société que nous vivons, eh ben, on a besoin d'une bonne parole, une parole d'espoir. Voilà, il a traduit mais quelques mots, quelques phrases d'une façon positive. J'ai dit, monsieur, si vous voulez bien, on va se retrouver une fois ensemble et pour boire le café ensemble. Et dans mon cœur, c'était tout de suite, Seigneur, j'aimerais lui communiquer le salut, le bon témoignage. Et en plus, quelqu'un qui travaille dans le bâtiment, je suis tout de suite visionnaire, prophétique. Je dis, bah, nous, on a besoin. Il y a des fuites. Là, quelqu'un qui a 61 ans, il y a encore quelques années devant. Quelqu'un qui maîtrise bien les choses, on va construire ici. Voilà. Alors, Seigneur, prépare les gens comme ça, parce que on a besoin. Hein, on a besoin. Donc, voyez un témoignage qui transforme, qui touche, qui visite. C'est pourquoi, mes amis, nous avons vraiment un témoignage puissant. Notre témoignage, c'est que Jésus est le sauveur du monde. Fred nous a parlé, nous a parlé dimanche dernier de la paternité. Et voilà, vous avez entendu, il nous a dit que j'avais 10 ans quand j'ai perdu mon papa, etc., etc. Ce n'est pas mon témoignage, moi, mon père, j'avais mon père, voilà. Et j'étais toujours fier de mon père parce que c'était un prédicateur remarquable. Il est venu même prêcher à l'époque, il y a 50 ans en France, et je suis venu avec lui. Grâce à lui, ben, je suis resté en France aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, je n'ai pas compris pendant des années que pour certaines personnes qui ont perdu un père ou les parents, maman, c'était tellement important. Pour moi, c'était plutôt, bah, t'as perdu ton père, tu es chrétien, bah, t'as la foi, bah, avance, quoi. C'est un peu ça, quoi. Parce que c'est pas mon expérience, vous comprenez? Vous comprenez? Je ne sais pas ce que ça veut dire, vivre ça. Et au fur et à mesure, j'ai compris. Et puis dimanche, ça m'a interpellé encore plus quand Fred m'a dit ça. Je dis, bon, il y a déjà les enfants, et il parle encore comme ça, c'est que c'est important. Et puis juste après, dans la semaine, je reçois un courrier. Je lis le courrier, et puis quelqu'un qui m'envoie un courrier pour nous demander de faire partie de notre famille d'église, Emma. Et puis, en dessous, il dit, bah, de toute manière, ma femme, je ne veux pas citer les prénoms, parce que certains les connaissent, ce n'est pas de la région, hein. Il dit, ma femme et moi, nous sommes les enfants de Christiane et Antoine dans le Seigneur. Et cet homme, on était jeune, il y a 30 ans. Il est venu à l'église de Waterloo. J'ai parlé avec lui. Et il m'a raconté que moi, je ne connais pas mes parents. Il a perdu ses parents. Tout jeune, il n'a jamais vu ses parents, je pense. Et il était élevé par des parents adoptifs, etc. Et il a grandi. Il a grandi dans la rue. Je pense qu'il a tout goûté, ce qu'il pouvait goûter. La drogue, etc., dans tous les sens, voilà, tout des choses impures. Et puis ensuite, une fois, il est venu à la maison, on lui a dit, passe à la maison. Puis on a mangé, on lui a donné un gâteau, et puis je pense qu'on a même mangé ensemble. Il nous regardait, il nous observait, il ne parlait pas. Mais il avait difficulté de comprendre qu'il était accueilli chez nous dans la maison comme si c'était la famille. J'ai un peu compris là, déjà. Ensuite, nous avons prié pour lui. La présence de Dieu est descendue sur lui dans notre salle à manger. Il a été tous touchés, visités. Il a vécu un baptême de l'esprit surnaturel, tellement force et puissance. Et il est... Ensuite, on a fait leur mariage, hein, c'est ça, leur mariage. On a tout fait, c'est comme si... On a fait comme si que c'était notre enfant. Parce qu'on a compris qu'il n'y avait pas de famille. 30 ans après, puis il a fait son schéma, ils ont déménagé dans une autre région, et puis encore dans une autre région, et maintenant ils sont encore dans une autre région. Et là, il y a 58 ans, c'est pas jeune, hein, 58 ans. Et il nous dit, Christiane et Antoine, vous êtes nos parents dans le Seigneur. Oh. Alors, Fred nous parle de la paternité dimanche ici, puis ensuite, deux jours après, je reçois ce courrier et je me suis dit, combien notre responsabilité est grande, notre témoignage qui apporte une bénédiction, transformation, changement. Vous savez quoi? Le fait que ce n'est pas facile pour nous même de se retrouver ce matin et pendant chaque culte, il y en a qui ne viennent pas, ils m'ont dit je ne viendrai pas tant qu'il y a des masques. Bon, on ne se dispute pas, c'est comme ça, on se respecte. Mais même le fait que vous faites un effort, et ce n'est pas facile de rester avec le masque comme ça, on n'est pas habitué, moi-même j'ai beaucoup de difficultés, je suis presque révolté, pardon, ce n'est pas un bon mot. Mais il faut faire. Mais même par les biais de ce sacrifice, écoutez-moi bien, nous sommes en train de construire l'éternité. Les masques vont rester là. Nos chemises vont rester là, je vous répète ça toujours. Ma voiture va rester là, ma maison va rester là. Mais si tu as évangélisé quelqu'un, si tu as partagé l'évangile, si tu as apporté un témoignage puissant comme cette jeune fille à quelqu'un qui est sauvé, tu vas te présenter avec ses âmes devant le Seigneur pour lui dire, tu sais, moi, j'ai juste réussi 2 personnes, je n'ai pas réussi plus. C'est déjà beaucoup, parce que même une personne n'a pas le prix. Amen. Ou j'ai contribué. Contribué, parce que l'Église, c'est un ensemble. Un ensemble, nous contribuons. Par nos cultes, par nos actions, par tout ce que nous faisons, l'Église fait partie de ceux qui sont porteurs d'un témoignage puissant qui conduit vers le salut, vers la délivrance, Alors vous êtes tous importants. J'aimerais travailler ce côté, développer cette culture pour que vous puissiez comprendre. Je ne vous parle pas de l'orgueil, d'être orgueilleux et tout ça. C'est pas ça que je veux. Mais j'aimerais juste vous dire, reconnaissez l'œuvre de Dieu. Reconnaissez l'œuvre de Dieu dans ta vie. Accordez la valeur que Dieu t'a donnée. C'est lui qui t'a accepté et qui t'a donné le statut d'être son enfant. Alors je vais valoriser quelque part la bénédiction de Dieu en moi. Amen. Et je veux, quand je sors dans la rue, quand je suis en ville, bah souvent je dis, ah Seigneur, tu vois tous ces foules, ils ne sont pas sauvés. Et toi, tu m'as accordé la grâce, tu m'as sauvé. Hein, Philippe, on est d'accord, hein, Philippe, c'est mon ami là-bas. Hein. On va valoriser, on va accorder une valeur. Seigneur, je me réveille matin. Seigneur, je suis ton enfant et j'ai un témoignage puissant comme cette jeune fille. Amen. Brigitte, c'est bon ? Voilà. Y a-t-il quelqu'un parmi nous ce matin qui n'a peut-être pas encore donné sa vie à Jésus ? Voilà, vous levez la main. Tout le monde a donné sa vie à Jésus parmi nous ? Vous êtes peut-être là, c'est bon, mais voilà, je fais ça parce que je ne sais pas ce qui va t'arriver demain ou après-demain. Voilà, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui veut lever la main pour dire « J'accepte cette grâce !» J'accepte cette grâce. Y a-t-il quelqu'un ? Bon, je ne vais pas forcer, hein, parce que quelquefois on me dit que Antoine, tu forces un peu. Mais comprenez que je ne force pas. J'aimerais tellement arracher tout le monde de l'enfer et puis les pousser dans le royaume de Dieu. C'est tellement bon. Est-ce que vous m'avez compris ? Voilà, donc c'est pas le forcing, hein, c'est la passion, c'est le feu de Dieu. Alléluia. Alors Seigneur, merci pour ces bons moments que nous vivons ensemble. Merci pour ton salut. Ouais. Merci pour les témoignages puissants qui est en nous. Merci pour les personnes, Seigneur, qui sont là. Il y en a peut-être deux, trois qui n'ont pas encore pris la décision, Seigneur, qu'ils puissent comprendre que c'est toi qui parles, c'est pas moi, Seigneur. Moi, je communique ta parole, Seigneur, et c'est toi qui sauves, c'est toi qui donnes la vie éternelle, et je te suis reconnaissant. Merci pour ces moments forts. Amen. Amen. Bon, j'ai dépassé l'heure.